de l'agence régionale de santé, il y a eu un appel à projet pour justement le défi qualité autisme. Et on s'est lancé dedans en 2018. Donc en 2018, les établissements, mais c'est au niveau associatif en fait, hein, c'est pas que le foyer d'accueil médicalisé, on a décidé d'y aller pour accompagner au mieux les personnes qui sont diagnostiquées avec des troubles du spectre autistique. Donc ça a été déjà un premier choix de fait par l'association. Et ensuite, on a vu pour former également les professionnels, voir comment ça devait se passer, parce qu'il existe en fait des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et tout est cadré, normé pour un meilleur accompagnement. Ça fait un gros changement au niveau des établissements, parce que on n'a pas pour habitude d'avoir en fait un accompagnement spécialisé à une pathologie. C'est en général, c'était plutôt des groupes qui étaient hétérogènes. Là, il y a vraiment eu une décision en fait de créer une unité adaptée que pour ces personnes avec des troubles du spectre autistique. Donc ça veut dire nouvel accompagnement, nouvelle formation des professionnels. C'est vraiment beaucoup de changements, c'est tout à fait une nouvelle acculturation au final. Ce qui prend aussi un peu de temps. Voilà. Donc nous, on a commencé à être accompagnés en 2018. Moi, je n'étais pas présente, mais vous y étiez. Comme je dis, ça fait un peu de temps. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas arrêté encore de se former, parce que c'est très très long au final. Donc, en 2018, ça a commencé. 2019, on a poursuivi. Les cadres aussi du siège de l'association ont été formés aussi également sur l'autisme. Et accompagné dans l'objectif en fait de passer une certification du CAPENDEO vraiment sur l'autisme. Voilà. Et alors après de l'obtenir ou pas, mais en tout cas d'essayer de l'avoir, l'objectif c'était vraiment un meilleur accompagnement des résidents en tout cas. Voilà. Donc cette certification au final, elle s'est passée pour nous le 25, 26 et 27 janvier 2021. Normalement, c'était prévu que ce soit pour novembre 2020, mais avec les contraintes sanitaires, ça a été compliqué, il y a eu un confinement. Voilà, donc du coup, ça a décalé un petit peu. Bon, mais ça s'est passé, ça se passe donc sur 3 jours, et c'est la nouvelle certification en fait du CAPENDEO. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez uniquement 2 jours et c'était que sur du document. Donc en fait, on donnait que des papiers en disant l'établissement, les professionnels réalisent ça auprès des résidents. Mais il n'y avait pas de temps d'observation, ou très peu, sur l'unité. Aujourd'hui, la certification, elle est sur 3 jours. Et on peut dire que vous avez un petit peu plus d'un jour sur l'unité. Où vous avez 3 professionnels de CAPENDEO. Un qui est expert métier, une expert qualité, et une personne qui est au niveau des familles représentantes. Voilà. Des usagers, oui. Voilà. Et au final... ces 3 experts-là, après, s'entendent sur un plan d'audit qui est proposé. Et donc, du coup, ils essayent de voir le maximum de choses auprès des résidents pour voir si on est en accord avec les recommandations de bonne pratique. Voilà. C'est très intense. Ça demande beaucoup, beaucoup de préparation. Et puis, c'est un gros, gros investissement pour l'équipe, pour les professionnels. Hein.
Et pour les résidents aussi.
Voilà. Aussi, oui. Au final, l'unité pour le foyer d'accueil médicalisé, elle s'est créée le 3 février 2020. Il y a eu des déménagements. Donc tout ça, c'était quelque chose aussi à anticiper parce que les résidents, quand ils sont là sur des unités depuis plusieurs temps, ça peut aussi les perturber, voilà, de se retrouver avec des nouvelles personnes. Donc tout ça, c'était quelque chose aussi qui a été quand même très très vite parce qu'en moins d'un an, au final, on a quand même passé la certification. Donc ça a été un gros travail de la part de tout le monde, vraiment. Donc voilà, sur la certification, c'est... oui, c'est vraiment un gros, gros boulot, mais de tout, hein, que ce soit documentaire, que ce soit aussi du stress pour les équipes, pour les résidents, parce que les résidents, il faut aussi les préparer, parce que comme les professionnels experts de CAPENDEO se déplacent sur l'unité, nous, on avait anticipé en demandant les photos des personnes pour pouvoir les placer justement sur tout ce qui était emploi du temps. Donc, on les a aussi préparés à ce qu'ils rencontrent des personnes externes qu'ils ne connaissaient pas. C'est vraiment un univers à part entière, hein, l'autisme. Et il y a différents autismes au final. Donc, vous pouvez avoir une personne qui est hypersensorielle comme une personne qui est hyposensorielle. C'est-à-dire que celle qui est en hypersensorielle, ben, dès qu'il va y avoir un bruit, quelque chose, ça va la perturber, ça va la mettre mal à l'aise, et il va y avoir un mal-être et il peut y avoir un comportement problème derrière. Une personne qui est en hyposensorialité, au contraire, elle va chercher du stimuli, que ce soit auditif, visuel, voilà. Donc vous pouvez avoir les deux opposés en fait, et c'est très difficile à cadrer en collectif. L'objectif, c'est vraiment, vraiment d'avoir quelque chose, une prise en charge en fait, un accompagnement individuel pour la personne, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc aujourd'hui, vraiment, avec la certification, on a vraiment acté sur tout ce qui était collectif, de bien l'organiser, bien le préparer, dans l'objectif, après, plus tard, de pouvoir aller plus sur l'accompagnement individuel de la personne. L'accompagnement individuel, ça reste en effet pour l'instant, après on verra comment on va se développer, continuer à se former, mais en tout cas, l'objectif, c'est de pouvoir aussi faire des transferts de compétences et d'apprentissage. Aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est que la vie quotidienne, ça devient quelque chose de banalisé pour eux. Mettre les couverts à table, se servir, débarrasser. Nous, on le fait classiquement, mais pas eux. Voilà, ils leur font un programme d'apprentissage. Et Marjolaine est là pour guider tout ça, voilà, avec les professionnels.
Ici, on a l'emploi du temps, par exemple, de deux résidents, là. C'est-à-dire que le matin, ils se lèvent, voilà. Il y en a certains qui vont à un accompagnement à la douche, et puis d'autres voilà, qui s'habillent, ça dépend. Toujours est-il qu'au final, lorsque les professionnels arrivent, ils font dérouler au moins de la matinée, puisque du coup, c'est réutilisable également pour l'après-midi. Et dans ce cadre-là, on place les photos ou des pictos ou des images, vous voyez, pour leur dire, en fait, ben là, la première activité que vous allez faire le matin, c'est par exemple la mise des couverts pour le petit déjeuner, sachant que c'est une vie collective, hein, donc le déjeuner se prend en collectivité. Donc vous allez avoir les couverts qui vont être là. Après, par exemple, vous aurez cette photo-là pour dire que ben, on déjeune, il y aura le lavage de main, etc. La personne, donc du coup, on lui dit emploi du temps en général, puisqu'il faut être très bref sur les mots, sur la communication, il faut que ce soit clair, qu'il n'y ait pas de grandes phrases élaborées pour la compréhension en tout cas. Ou alors, c'est même pas une communication verbale pour certains, c'est également juste une communication contact, visuelle en fait. Donc on pointe avec le doigt et la personne comprend les objectifs ici. Enfin, toutes les activités sont élaborées en amont avec les résidents. On regarde justement s'il comprend telle ou telle image pour pouvoir après l'insérer dans son emploi du temps. La personne du coup voit qu'elle doit mettre les couverts. Elle se dirige sur la table qui est derrière vous et dont les couverts sont déjà disposés. Elle prend ses couverts, le plateau, et elle va s'installer à sa table. Voilà. Une fois que le petit déjeuner est pris, il y a du coup le débarrassage. Et donc le débarrassage des couverts, lui, c'est pareil, est très normé avec des chariots, des images aussi pour et de guider la personne dans un cadre voilà, assez contenant pour pas qu'il y ait de perturbations, que ce soit visuelle, auditive ou autre. Et ensuite, une fois que c'est terminé, elle retourne sur son emploi du temps. On retire l'image et elle le met dans le pot fini. Et on peut passer à une autre activité. Voilà. Et tout est très normé, cadré, avec des horaires. C'est-à-dire qu'au niveau horaire, si on a une activité physique qui arrive, on ne peut pas dire que c'est à 10h15 et que la personne arrive à 10h20. Parce que 10h15, c'est 10h15, ce n'est pas 10h16 ou 10h14. Voilà. Donc, c'est vraiment être très, très précis. Et tous les professionnels, du coup, sont formés là-dessus. Et on continue encore de se former. Donc là, on est vraiment sur du temps, en tout cas, qui est collectif. Et l'objectif, plus tard, c'est de pouvoir le faire aussi sur des transferts de compétences chez les familles. Voilà. Par exemple, vous voyez, là, je vous ai expliqué le débarrassage mixte découvert. Ben, ça, c'est bien en collectivité. Mais on pourrait faire aussi des apprentissages sur l'individuel, en transfert avec ce qui se passe chez la famille. Pour ça, par contre, ça demande plus de temps, en tout cas, individuel, ce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui, mais qu'avec la certification, en tout cas, on espère obtenir voilà, des renforts et une personne peut-être supplémentaire. Voilà, c'est vraiment, vraiment important, parce que aujourd'hui, les résidents, ils ont vraiment, vraiment des compétences et des capacités, et on n'a pas...
C'est-à-dire que si on pouvait avoir du 1 pour 1, ça serait bien, mais ce n'est pas le cas. Donc on essaye vraiment de privilégier le collectif pour l'instant. Et puis petit à petit, de prendre du temps un par un avec les résidents pour le faire. Mais on est vraiment dans l'idée, en tout cas, d'optimiser au maximum l'autonomie de la personne pour que, ben, voilà, peut-être, on sait que certains résidents ne pourront pas être dans un appartement thérapeutique seul, mais au moins que le contact aussi avec la famille soit plus facilité. Voilà. Donc voilà un petit peu comment se déroule la journée. Okay. C'est sur un temps très court.
Super.
Personnes avec autisme, ce sont des penseurs visuels.
D'accord.
Donc l'idée, c'est de privilégier les supports visuels, que ce soit des supports par image ou des supports par objet, parce qu'il y a aussi des résidents qui n'ont pas accès à la compréhension des images. Il faut utiliser dans ce cas des objets, plutôt que d'utiliser le langage verbal. C'est trop compliqué à comprendre. Mais c'est aussi pour ça, sur les supports, en dessous de chaque image, vous avez le mot qui est écrit. En fait, tout simplement pour que nous, on utilise le même langage. Pour prendre un exemple tout simple, si on demande à un résident d'aller chercher sa veste, il ne faut pas qu'on redise la consigne en disant « va chercher ton blouson ». Veste, blouson, pour nous c'est pareil, pour eux c'est pas pareil. Si on demande la veste, on ne demande pas le blouson ou le manteau, enfin bon, bref.
Mais j'imagine que vous ne pouvez pas dire « prends le truc ».
Pour certains, oui. Ah, mais pour, enfin voilà, il faut adapter, en fait. Ça revient à ce que expliquait Ophélie. Il y a des choses qu'on peut travailler au niveau collectif. Et ça, ce sera plus sur l'aménagement de l'espace, par exemple, de structuration de l'espace. Et c'est ce qui nous a demandé un gros travail en amont, en fait, de structurer les lieux pour qu'il y ait bien un endroit, une activité, que tout soit pas mélangé. D'organiser le temps, donc ça revient aux emplois du temps de journée, que tout soit bien déterminé, bien structuré, de manière à ce qu'ils sachent. Au même titre que nous, on a a priori tous un agenda. Ben, eux aussi, ils ont besoin de savoir ce qui va se passer dans leur journée, que ce soit expliqué. Et l'intérêt aussi des supports, c'est qu'on peut aussi intégrer dans les emplois du temps, s'il y a un imprévu, s'il y a un changement, s'il y a quelque chose qui doit être modifié à la dernière minute, on a le support pour expliquer. Voilà, on avait prévu d'aller faire du cheval, finalement il neige, on ne peut pas y aller, qu'est-ce qu'on met à la place, et on peut expliquer comme ça, plutôt que de faire des phrases à rallonge qui sont trop compliquées à comprendre.
D'accord.
À quelle fréquence vous demandez des retours d'expérience aux résidents ?
Alors ça, on le fait déjà toutes les semaines, tout à l'heure par exemple. Les résidents, en fait, il faut savoir que sur le groupe de 7, il y en a principalement 3 qui s'expriment verbalement, avec un niveau de compréhension et un niveau de compréhension assez limité, mais qui peuvent quand même exprimer leur ressenti. Et il y en a plusieurs, enfin notamment 2 qui ont la capacité de dire « c'est quand même plus facile quand tout est organisé, moi j'aime bien avoir mon emploi du temps, savoir ce que je fais sur la journée, que c'est important pour eux de savoir ». Et là, au moment où je vous parle, les collègues sont venus récupérer l'ordi justement pour qu'il y ait un résident qui fait son emploi du temps, lui, par informatique. Et voilà, ils sont, en tout cas pour ces 3-là, en mesure de nous expliquer que, voilà, que c'est plus facile pour eux. Après, pour ceux qui n'ont pas le langage verbal, on a remarqué aussi qu'il y a beaucoup moins de problèmes de comportement. Donc un problème de comportement, ça peut être une personne, par exemple, qui va passer sa journée dans sa chambre à ne pas vouloir en sortir, qu'il va falloir amener à petit participer aux activités. Et là, on en arrive notamment avec un résident qui est sur l'ancien groupe, passait énormément de temps dans sa chambre. Là, maintenant, quand il a pris le rythme, encore une fois, c'est le rythme qui a été donné dès le départ, au niveau collectif, de venir en salle d'activité. Et maintenant, il n'y a plus de soucis pour qu'ils viennent participer. Et au contraire, il est curieux de plein de choses. Et c'est au final nous qui nous trouvons en difficulté parce qu'en fait, il apprend très très vite. Et voilà, ça revient aussi à ce que disait Ophélie sur l'importance de former les professionnels et puis de pouvoir être un maximum nombreux pour pouvoir les accompagner vraiment individuellement. Maintenant que tout ce qui est structuration collective, tout ça, c'est acquis. Maintenant, c'est vraiment de cibler sur des accompagnements, effectivement, en un pour un. Et de pouvoir vraiment approfondir les choses et d'aller plus loin dans les accompagnements et surtout dans les apprentissages. Parce que l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent gagner un maximum d'autonomie. Alors évidemment, ce ne sera pas d'aller vivre en appartement, mais au moins participer un minimum à sa vie de tous les jours. C'est le cheval de bataille, on va dire. De travailler des apprentissages autour des choses qui peuvent servir dans la vie quotidienne. Parce que clairement, de trier des cubes cartes par couleur dans la vie de tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, apprendre à mettre du dentifrice sur sa brosse à dents pour pouvoir brosser les dents correctement, a priori, c'est un peu plus pertinent, on va dire. Donc, on va cibler les apprentissages vraiment sur des choses qui servent dans la vie de tous les jours. Pas sur des apprentissages de type scolaire ou de choses comme ça qui sont pas adaptés et qui sont qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans leur vie de tous les jours, quoi.
La certification, du coup, ça nous a permis ça aussi. Hein. Du coup, le fait d'être lancé dans la certification, ça nous a obligés à nous repositionner sur nos pratiques professionnelles aujourd'hui pour accompagner mieux les résidents autistes. Donc, très clairement, voilà. C'était nécessaire.
La page de la Creuse soutient également le projet visant à la création d'un SAMSA, dédié aux troubles du spectre autistique. SAMSA signifie Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Je vous laisse découvrir rapidement le projet.
Pour l'instant, on est à l'étape de projet. C'est un service pour personnes handicapées. Donc, c'est des services qui vont à domicile, qui vont... qui vont dans la famille, qui peuvent aller. Ça peut aussi être des accompagnements à des salles de spectacle ou faire des actes administratifs. Donc là, c'est une personne qui vit soit dans sa famille, soit seule, mais c'est plus rare pour le type de handicap qu'on accueille. Et l'équipe donc vient à domicile l'accompagner dans un projet très très particulier et très très précis. Pour l'instant, c'est effectivement des services vers lesquels on va essayer d'œuvrer parce que c'est on parle d'inclusion de plus en plus au niveau de la société. Et pour être inclus, il faut vivre dans la cité, quoi. Faut vivre dans la société. Mais ce sont des personnes qui ne peuvent pas seules, ils ont besoin d'aide. Donc effectivement, c'est des services qui vont se développer pour aller accompagner à domicile un certain nombre de personnes.
D'accord. Oui.
C'est pas encore... Il y a des expériences, hein, mais au niveau du handicap de l'autisme, pour l'instant, je ne connais pas de service.